Bienvenue à Confession de leader, un balado inspirant pour propulser votre équipe au travail. Je m'appelle Chloé Caron, je suis auteure, coach exécutive et fondatrice d'O2 Coaching. Aujourd'hui, je reçois Fadi Daguerre, directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. Il vient nous parler de sa vision innovante du leadership au sein de ses forces policières. D'origine libanaise, Fadi Daguerre est né en Côte d'Ivoire. Policier depuis presque 30 ans, il a une maîtrise en administration des affaires pour gestionnaire de l'Université McGill et HEC Montréal. Avant d'être nommé chef de police de Longueuil en 2017, il était policier à Montréal et commandant du poste de quartier Saint-Michel. Aujourd'hui, Fadi Daguerre dirige l'un des corps policiers les plus importants au Québec. Depuis son embauche, il a révolutionné les interactions entre ses patrouilleurs et la communauté. Comme coach, j'étais curieuse de savoir comment on peut renouveler une institution aussi hiérarchisée que la police. Puis la question que je me pose, c'est qu'est-ce que le milieu des affaires peut apprendre d'un leader à la tête d'un corps policier de 1000 employés? Voici donc ma conversation avec Fadi Daguerre, un leader qui passe à l'action avec sagesse et bienveillance. Alors, je voulais vous rencontrer ce matin parce que je suis toujours à la recherche de leaders différents, mais qui ont cette intention de créer un climat, un environnement où on fait les choses différemment, où il y a de l'inclusion, mais aussi où il y a, moi j'appelle ça de l'empowerment. Alors, on m'a parlé de vous, là, j'ai fait un peu de recherche, puis je me suis dit, ah, c'est un personnage vraiment intéressant, puis votre intention de réinventer la police, je trouvais ça intéressant. Alors, c'est avec cette intention-là que je voulais vous parler ce matin.
D'accord.
C'est quoi ça veut dire pour vous, réinventer la police?
Bien, c'est sûr qu'on est, une organisation paramilitaire avec des repères beaucoup plus interventionnistes. J'ai une culture policière qui n'est pas mauvaise dans le sens qu'elle a servi énormément dans les années antérieures. Mais maintenant, quand tu regardes l'évolution de la société, quand tu regardes l'évolution des appels 911, quand tu regardes les styles d'intervention qu'on fait, on n'est plus du tout dans un domaine de criminalité noire et blanc, et criminalité beaucoup plus, conventionnelle. C'est-à-dire des armes à feu. Ben, j'aime pas dire ça parce que vraiment il y a plein d'armes à feu, mais les vols qualifiés, une criminalité beaucoup plus traditionnelle. On n'est plus là-dedans. Mm. 70 à 80% de nos appels sont des appels de détresse humaine. Donc, ça demande une réforme policière, ça demande une revoir nos façons de faire, revoir l'offre de service pour la population. Qui sans la population n'est plus, elle n'a plus de légitimité. Donc, c'est ce que quand je dis réinventer. La police, ça ne veut pas dire non plus éliminer ce qu'on a fait auparavant totalement, garder les bonnes pratiques, certaines bonnes pratiques anciennes, mais surtout se renouveler puis s'adapter à la nouvelle réalité. Et ça, je te dirais que c'est pas... Parce qu'il y en a qui me disent, Fadi, on a l'impression, on est persuadé que tu es 10 ans en avance. Tu es un peu trop tôt, tu es un peu trop tôt en avance. Puis moi, souvent, je leur réplique, je dis, je pense que je suis trop tôt, j'ai 10 ans en arrière. Déjà en retard. Puis c'est urgent qu'on change. Puis pour être honnête avec toi, Chloé, quand je regarde toute l'actualité dans le monde, pas juste au Canada, pas juste au Québec, la police se fait tellement défier sur sa culture, sa façon de travailler, sa façon d'intervenir. Si les gens n'ont pas saisi qu'on est dans le mode urgence, de changer nos méthodes de faire, de s'adapter, c'est pour ça que je le fais.
Ce qui est vraiment intéressant avec ce que vous dites, c'est que dans le fond, la police, c'est la représentation de la pensée sociale d'une société.
On est le reflet, on est le miroir. Tu sais, quand tu prends un miroir et il y a des miroirs qui transforment un peu, tu amaigris et tu grossis. Et là, tu regardes ça, tu te dis, mais est-ce que j'ai le bon miroir? Est-ce que je vois vraiment clair? Il y en a qui ne voient pas clair. Il y en a qui ont des esprits très réducteurs, qui ne sont pas capables de faire face à la musique. Moi, ce qui est important, d'où je viens, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et du Liban. Et ce sont deux pays, malheureusement, sont des super beaux pays, mais où la fonction policière, elle est beaucoup plus répressive, beaucoup plus corrompue. Et là, tu te dis, je sais qu'est-ce qu'il y a là-bas, je sais ce qui se passe quand le crime est à droite, les policiers regardent à gauche. Tu te dis, et la légitimité de la population ne la donne plus à la police. Et c'est une police sans légitimité, elle n'a plus de raison d'être. Puis ça me fait tellement peur. Ils vont me dire, Fadi, tu es alarmiste. Non, je ne suis pas alarmiste.
Et si vous dites qu'on est 10 ans en retard, selon vous,
votre vision de futur, là où vous aimeriez être en fait aujourd'hui, mais qui va se retrouver peut-être un peu dans le futur, ça ressemble à quoi?
On va toujours avoir besoin, parce qu'on est quand même en Amérique du Nord, l'aspect interventionniste répressif va toujours exister. Puis je pense que malheureusement ou heureusement, peu importe, c'est nécessaire. Parce qu'il y a des moments d'urgence, de dangerosité flagrant, imminent, et il faut répondre tout de suite. Il faut être présent. Mais là, je ne m'attends pas à créer un dialogue. Ce n'est pas le temps. Dans l'intervention, ce n'est pas le temps. Et c'est généralement pas élégant. Ce n'est vraiment pas élégant. Tu vois des interventions, parfois tu dis, hey, c'est une technique enseignée. Le trois quarts sont tout enseignés. Il y en a quelques fois que c'est une question de survie. Le policier utilise une méthode, une technique qui n'appartient pas à des techniques enseignées, mais c'est une question de survie autant pour lui que pour le citoyen et l'environnement. Moi, ce qui est clair pour moi, c'est que ce côté-là doit rester. Par contre, tout le côté travail en amont, dans la communauté, policier présent en permanence, sans appel 911, devient un acteur social, pas un travailleur social, mais un acteur social dans la communauté, ça, là, c'est un incontournable, c'est un état tard. On a eu des périodes, dans mon ancienne vie, j'étais au SPVM, et j'étais commandant d'un poste de quartier que j'ai adoré. Finalement, à Saint-Michel, tu pleures quand tu arrives, parce que tu veux pas aller à Saint-Michel, c'est le Bronx. Et finalement, tu pleures quand tu quittes, parce que tu veux plus quitter, parce que tellement t'as aimé. Et c'est là que j'ai réalisé combien que quand nos policiers et nos policières sont proches de la communauté, vivent dans la communauté, travaillent avec eux autres, oh mon Dieu Seigneur, premièrement, tu évites tellement d'événements, tu construis une communauté, tu construis des liens, tu construis des passerelles avec la population, c'est fou comment c'est bénéfique pour tout le monde, pour le policier, pour la population, les groupes communautaires, les jeunes. Alors je me dis, tant et aussi longtemps que c'est un petit groupe qui essaie d'amener un changement versus la grosse masse, on va se faire étouffer. C'est pour ça qu'à Longueuil, je leur ai dit, moi j'ai environ 1000 employés, puis j'ai environ 300 patrouilleurs, je leur ai dit, je vous dis, ça va prendre 5 ans à 10 ans, mais la moitié de l'organisation policière patrouilleuse va devenir policier réseau dans la communauté sans appel. Et l'autre moitié, elle va rester au niveau de l'intervention. Et là, on va avoir vraiment un jeu de poids, un jeu de capacité de faire, de balancer la culture et bien l'équilibrer entre l'interventionniste qui est encore nécessaire, mais surtout avec les policiers réseaux qui est l'aspect plus prévention dans la communauté sans appel. Eux, ils vont anticiper les appels. Eux vont anticiper tous les enjeux sociaux avec toute la détresse humaine, le dérapage au niveau des jeunes autistes qui parfois deviennent à fond une crise, le dérapage avec la santé mentale, le dérapage avec les clivages entre les communautés qui vivent au quotidien ensemble. Il y a tellement de tensions intercommunautaires, intergénérationnelles. Et les personnes plus âgées, les jeunes, oh, c'est fou. Donc, la police qui habite dans la communauté, qui reste dans la communauté, qui vit avec eux, devient le policier famille.
Oui.
Et ça, pour moi, là, c'est ça l'avenir, entre autres avec les interventionnistes.
En fait, même moi, tu sais, je fais la promotion beaucoup du leadership participatif puis du leadership par le coaching. Puis c'est vrai qu'on parle assez peu du style directif. Puis je trouve ça intéressant quand j'entendais Fadi, parce que c'est clair que dans le cas de la police, il y a des cas où il faut absolument qu'il soit directif, même avec la communauté, mais même à l'intérieur de leur organisation. Il y a des situations où on n'a pas le choix. Je trouve ça intéressant parce que lui est dans une mouvance où il s'en va vers un style plus participatif, justement, avec une découpure assez claire entre quand être participatif puis quand être directif. Puis ça, pour moi, dans le monde des affaires, je pense que si on bâtit cette conscience-là de quand est-ce qu'on doit être directif, quand est-ce qu'on doit être visionnaire, quand est-ce qu'on doit être coach, c'est là où vraiment on développe le muscle du parfait leader, parce que là, on a vraiment tous les outils dans notre arsenal. Mais puis je vous écoute, puis je peux pas m'empêcher de faire des parallèles, évidemment, parce que moi, mon métier, c'est le leadership. Alors, je fais des parallèles entre les différents styles de leadership, où justement, il y a le style directif, où là, dans des cas d'urgence, puis vous, les urgences, ce sont des vraies urgences, là. Nous, je pense que dans le monde corporatif, on s'invente des urgences peut-être un peu trop souvent, mais il reste qu'il y a des situations où c'est important. Puis là où je vous entends vouloir tendre, c'est plus vers un style participatif, collaborateur,
empathique, de toute évidence, là. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec cette combinaison, parce que je suis, moi aussi, c'est ma philosophie de dire, ça prend une combinaison pour faire face aux différentes situations. On peut pas avoir juste un style qu'on adapte pas. Il faut s'adapter. Est-ce que votre prémisse, c'est de dire, si on arrive à jouer sur ces différents fronts de leadership, puis d'approche policière, on va réduire la criminalité de façon considérable?
Vous avez tellement raison, Chloé, parce que moi, ça fait 30 ans que je suis dans la fonction publique. Ça fait à peu près 20 ans que je suis en gestion. Et c'est vrai que parfois, il faut que je sois directif. Il y a des moments, dans le temps de Saint-Michel, puis même ici, quand c'est le temps de parler dans les blancs des yeux aux criminels, et ça, quand c'est le temps de parler en termes interventionnistes, plus répression, plus enquête, infiltration et tout, il faut envoyer des messages très clairs. Et là, ce n'est pas le temps d'être... Donc, l'aspect directif doit être... Non, mais ce que je peux dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec un équilibre entre ces diverses sortes de leadership. Mais, tu sais quoi? Je pense que plus on va travailler en collaboration, en participatif, moins il va être nécessaire d'être directif. Mais dans les bons moments, dans les moments importants où l'aspect directif doit être présent, il ne faut absolument pas le manquer. Parce que là, tu gâches tout. Ils vont se dire, mais voyons donc, il est en train de participer, il est en train d'avoir un leadership participatif, collaboratif, c'est pas le temps, c'est en train de péter de partout. Donc, il y a des moments où il ne faut surtout pas manquer le bateau, il faut être présent pour l'exercer. Mais de plus en plus en avance, je pense que l'aspect participatif, l'aspect collaboratif va porter grand fruit.
Vous avez parlé de votre bagage culturel. Vous êtes né au Québec, vous êtes né en Côte d'Ivoire, de parents libanais, vous l'avez dit. Vous êtes ouvert, je pense, par ce bagage-là sur le monde. Vous en avez parlé aussi. C'est quoi les modèles sur lesquels vous vous basez dans le monde où vous dites, ah, ça serait vraiment intéressant de suivre ça ou d'intégrer des éléments de ça?
La première idée qui me vient en tête, Chloé, c'est le Nord et le Sud. Mm-hmm. En Occident, on pense tout savoir. Et pourtant, lorsqu'on retourne en Afrique, lorsqu'on retourne dans certains pays et tu vois comment ces communautés vivent, passent à travers des crises, tu te dis, mais voyons donc, l'ABA de certaines notions, ils les ont dans les villages. Moi, j'ai toujours été, puis les gens me l'ont toujours dit, Fadi, tu es devenu directeur, tu es à un certain niveau, mais tu n'as jamais changé. Et ce que j'aime, c'est aller retourner sur le plancher des vaches. Même dans la police, je m'en vais patrouiller avec mes policiers. Et souvent, des stratégies, des approches innovantes ou des approches prometteuses ne se retrouvent pas dans la complexité. Mm-hmm. Se retrouvent souvent dans la facilité, dans la simplicité, dans l'authenticité. Et ça, il faut aller sur le terrain le voir. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup voyager à travers le monde pour voir les meilleures pratiques. Souvent, elles sont dans ton propre jardin, mais tu ne les vois pas. Parce que tu es tellement rendu dans ton tour d'ivoire et tu restes déconnecté. Donc, je te dirais, plus macro, il y a des approches africaines, des approches dans certains pays sous-développés, qui sont des approches justement très prometteuses pour les pays les plus développés. Et on les néglige, on les oublie. Puis je l'ai déjà fait, j'ai fait un diplôme assez élevé au niveau académique et des profs hyper c'est stimulant comme Henry Mintzberg au niveau de la gestion. Puis Henry nous a amené des exemples très, très modestes, très simples. Et tu te dis, waouh, OK, mais on essaie de trouver des affaires extrêmement poussées, mais pourtant, il y a des... Donc, moi, je dirais, mon inspiration vient autant des approches plus terrain, localement, que des approches de pays du Sud, qui pour moi sont certains pays d'Afrique, certains pays du Moyen-Orient, qui ont des approches qui sont très prometteuses. Donc, oui, puis je regarde aussi l'Allemagne. Il y a certaines approches policières en Allemagne qui sont très prometteuses, en Angleterre aussi, mais beaucoup, beaucoup dans d'autres pays et beaucoup aussi localement. Donc, je te dirais, macro, micro.
Qu'est-ce qui, dans votre jeunesse, qu'est-ce qui reste avec vous de cette jeunesse-là dans le rôle que vous jouez aujourd'hui dans la police?
Mais moi, c'est mon papa. Mm-hmm. Mon papa, c'est lui qui m'a marqué le plus parce que mon père, il a étudié la Torah, la Bible et le Coran. Mm-hmm. Et dans cette période, ces années 70-80, il y avait énormément de tensions au Liban. Il y a eu énormément de tensions, même en Côte d'Ivoire, entre différentes factions religieuses. Et quand j'ai vu mon papa aller en médiation, lire, comprendre, maîtriser un peu ces diverses religions, puis rassembler les gens, rassembler, ça m'a marqué. Puis je me rappelle, il y a une photo de moi où mon père est debout avec le micro. Puis en arrière de lui, vous voyez un prêtre, un chef musulman, un imam, puis les gens des juifs. Et moi, je passe en avant, il y a une photo, je suis en couche. Donc je devais avoir 2 ans. Et je le regarde comme ça. Et ça m'a marqué sûrement, inconsciemment. Maintenant, je vois que toute cette période-là où je l'ai vu rassembler les gens. Mais sincèrement, j'ai rien vu venir. Quand je suis allé dans la police, aucun lien. Justement, encore Laurent Lapierre puis Henry Misberg nous expliquaient les connecting the dots. Mm-hmm. Je n'avais rien fait de connexion. Et c'est maintenant, depuis quelques années, je me dis, oh wow, ok, l'héritage vient de là. Mm-hmm. Il vient tout très personnel, très familial. Voilà.
Mais parce qu'en fait, je pense que vous vous destiniez à une carrière plus d'entrepreneur. Là, je pense que c'était ça l'intention. Ouais. Hein, et c'est comme si cet appel vers la communauté, vers justement la médiation, s'assurer que tout le monde puisse collaborer, travailler, vivre ensemble. C'est comme si cet appel-là était plus fort que vous, là, parce que vous ne l'aviez même pas dit à vos parents là, que vous étudiez en police, si je peux me permettre de dire ça comme ça.
Ouais. J'avais rien dit. Puis justement, j'étais assistant gérant d'un magasin lunettes. J'étais étudiant à l'UQAM en comptabilité administration pour retourner en Côte d'Ivoire prendre les affaires de papa. Mais finalement, j'ai eu un coup de foudre au niveau du boulot. Et le métier policier à Montréal, je dis waouh, c'est ça que je veux faire. Mais même là, j'ai une carrière, tu sais, parfois ça me donne, pas parfois, souvent, maintenant je peux parler avec une certaine crédibilité. J'ai une carrière de 30 ans, puis il y a un bon 10 ans qui a été beaucoup dans la répression. Donc, agent double, agent enquêteur, stupéfiant, moralité, crime organisé. Donc, j'étais pas du tout dans la médiation, dans le rassemblement encore. Et ça s'est dessiné beaucoup plus tard. Bon, vraiment, le deuxième coup de foudre, j'ai adoré Agent Double, mais le deuxième coup de foudre a été en 2005 quand je suis arrivé à Saint-Michel. Et là, j'ai saisi que, oh, OK, Fad, toi, tu es vraiment faite pour rassembler les gens. Et c'est le temps de le faire. Puis là, toutes les notions de mon papa, tout ce que j'ai vu comme exemple, sont ressorties.
Votre plus grand défi de leader, ça a été quoi? Et comment vous avez transcendé ce défi-là?
L'adhésion au changement de culture. Un changement majeur au niveau du SPAL. Puis l'adhésion des diverses sphères, la base, le middle management et la haute sphère, l'adhésion des partenaires externes, de la ville, du politique. Mm-hmm. Toutes ces parties prenantes-là, le syndicat, l'adhésion. Donc, comment s'assurer que les gens adhèrent à la vision, embarquent dans la vision, ça comporte beaucoup, beaucoup de défis. C'est pas facile. Et je te dirais que présentement, je le vis, je l'ai vécu auparavant, et c'est une bataille sans fin. Tu sais, les gens parlent d'un combat, mais un combat, parfois, il y a un combat de boxe de 12 rounds. Moi, je ne vois même pas la fin. J'ai l'impression que tu me rappellerais dans 10 ans. Dis, bon, Fadi, c'est quoi ton plus grand défi comme gestionnaire? Je te dirais encore l'adhésion, parce que c'est du travail constant à répéter et à répéter.
Ce que j'apprécie particulièrement là, de ce segment-là, c'est la candeur avec laquelle Fadi nous dit la vision, c'est l'ancrage d'une organisation. Quand tu penses que tu as partagé ta vision puis que tu penses que tu peux faire un check the box parce que tu l'as dit une fois, deux fois, ben non, il faut revenir et revenir. Puis en fait, pas juste revenir, il faut faire vivre cette vision-là puis que ça devienne le langage de tous les jours de tous les employés. Puis ça, c'est vraiment intéressant quand il nous l'explique comment lui s'y prend pour le faire.
Hein, c'est ça, il y a Paul Lirette là, qui était sur mon podcast il y a 2-3 saisons. Paul Lirette, il est président de GlaxoSmithKline au Japon. Il disait, quand tu penses que tu as exprimé ta vision, puis que tu l'as partagée, puis que les gens l'ont compris, ben go at it again, parce que il faut encore et encore et encore avoir ce type de discussion-là, parce que c'est mouvant aussi, hein?
Ouais. Ça bouge. Les gens, ils ont des bonnes intentions de la saisir, de la comprendre. Quand ça vient dans l'action, c'est là que tu réalises que c'est pas tout saisi, c'est pas tout compris. Et il faut que tu répètes, il faut que tu retournes sur le terrain, il faut que tu saisisses, il faut que tu identifies tes ambassadeurs qui, eux, deviennent multiplicateurs vraiment de ta vision pour que ça puisse prendre forme un peu plus large que juste la dit. Donc, c'est dans l'adhésion, il faut que j'ai des ambassadeurs qui se multiplient rapidement. Parce que sinon, ça devient épuisant et ça devient le projet Afadi. Mm-hmm. Et ça ne peut pas rester le projet Afadi. Ça peut pas, il faut pas, parce qu'il va mourir le projet. Donc, je te dirais, elle a raison, cette personne-là, parce que une fois que tu l'as dévoilé, tu l'as transmis, ça ne fait que commencer. Il faut l'entretenir. C'est comme une fleur. Hein. Il y a une plante, tu mets de l'eau et à chaque jour, un peu d'eau, un peu d'entretien. Tu l'entretiens.
Qui vous êtes devenu après ces 30 ans-là dans la carrière policière?
Parce que je sais pertinemment bien qu'il y a beaucoup de choses en moi qui n'ont pas changé. Et ça, sincèrement, je le sens au quotidien, puis j'en suis tellement content de ne pas avoir perdu mon identité, mes valeurs à cause du prestige de devenir directeur. Mon Dieu, je suis content, je touche du bois. J'ai pas grandement changé. Par contre, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris. Puis je pense que je vais en apprendre. Honnêtement, à 53 ans, je me trouve à l'âge parfait. Comme une éponge, j'apprends tellement. Donc, je te dirais que le côté humilité, modestie que mon papa m'a amené beaucoup, 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 beaucoup dans ma vie m'a servi énormément aujourd'hui de rester grounded sur le terrain. Mais qu'est-ce que je suis devenu? Mais je pense que je suis devenu quelqu'un avec une plus grande retenue. Je fais attention, une retenue émotionnelle avec une tenue intellectuelle plus posée parce que je suis flamboyant, je suis assez intense. Parfois trop intense. C'est pour ça qu'il faut que je cours, je marche. Je m'entraîne énormément pour. Mes employés me demandent, puis d'ailleurs, en rentrant au travail, avez-vous couru, marché, pris votre cou? Parce qu'on veut savoir quel genre de journée qu'on va avoir. Et je pense que je me suis calmé. Une certaine sagesse s'est installée. Je suis un peu moins fougueux. Je fais attention parce que je réalise que parfois pousser trop vite m'amène plus vers le déclin. J'ai beaucoup plus, Chloé, j'ai beaucoup plus d'échecs que de réussites. Puis c'est des apprentissages que j'ai eus. À chaque échec, là, je ne veux pas sonner musical comme têteux, là, mais vraiment, j'apprends beaucoup. Donc, je grandis. Mais le fond de Fadi, comme les racines d'un arbre, le fond de Fadi est tellement intact. Le tronc est pas mal intact. Les feuilles, elles s'amusent. Comme l'automne.
Fadi, ça a été un plaisir. Choukran, vraiment.
Ouais, Fadi Daguerre, vous pouvez suivre le service de police de l'agglomération de Longueuil sur Facebook et Twitter. Si cet épisode de Confession de leader vous a inspiré, je vous invite à le partager et à publier un commentaire sur Apple Podcasts. Chaque semaine, retrouvez-moi sur mon compte LinkedIn pour des contenus sur le leadership. Vous pouvez aussi suivre O2 Coaching sur LinkedIn et Facebook ou encore visiter le o2coaching.ca pour en savoir plus sur la manière dont on peut vous aider à propulser votre équipe. Je m'appelle Chloé Caron, je vous invite à être inspiré et inspirant.